L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business, votre rendez-vous dédié aux nouvelles techno et à l'économie numérique chaque samedi. Merci d'être là. On vous souhaite bien sûr un bon week-end avec nous. On va passer 2 heures ensemble pour évidemment nous intéresser à toute l'actualité high-tech. Avec tout à l'heure notre Silicon Carnet, notre Cyber Gadget, sélection de Cyber Gadget avec Antoine Cyr qui sera là. Nous retrouverons notre focus start-up aussi. On s'intéressera à Fred Bay, notre enquête de l'atelier. Comment les industries créatives et culturelles s'emparent-elles de la data? On en parlera entre autres avec le directeur marketing de Warner. Warner, vous savez, le grand éditeur de vidéos, mais aussi de films. Harry Potter, eh oui, c'est Warner entre autres. Notre web stratégie, on parlera de Noël qui approche à grands pas avec la stratégie digitale de la Grande Récré. Et à mon avis, vous ne pourrez pas y échapper si vous avez des enfants. Vous irez à la Grande Récré dans les semaines qui viennent. Cela dit, c'est plutôt agréable. Hein. Ça fait partie, on va dire, des grands rendez-vous des fêtes de fin d'année. Notre passion selon Sanet, la face cachée de la gratuité. Eh oui, on croit que tous les services gratuits sont vraiment gratuits. Eh bien non, en échange, les géants de l'Internet se servent de toutes vos données personnelles. Et les commercialise. Voilà, donc rien n'est gratuit. On en parlera tout à l'heure avec des spécialistes. World Tour, French Tech Tour, l'actualité vue par 01net.com et puis le crash test d'Antoine pour terminer. Et l'alphabet du numérique avec Lila Megraoua. Lila Megraoua qui est là. Bonjour Lila.
Bonjour.
Constance est là aussi. Bonjour Constance.
Bonjour François.
Et Nathalie depuis l'atelier San Francisco. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Nathalie qu'on va retrouver dans un instant avec sa sélection de news. Mais on va commencer par Constance. Et Constance, vous vouliez parler justement des réseaux sociaux qui ont eu pendant les attentats de la semaine dernière une résonance incroyable.
Alors justement, je voulais vous parler de l'engagement des réseaux sociaux suite aux attentats de vendredi 13 novembre. Alors notamment Facebook qui a mis en place l'option Safety Check qui permettait à tous les habitants de la capitale d'indiquer à leurs proches qu'ils étaient bien en sécurité ou alors même d'indiquer que leurs amis l'étaient aussi pour rassurer les gens qui n'arrivaient pas à les joindre. Alors ça a été vraiment l'option qui a été la plus marquante. Mais Facebook n'a pas été le seul à se mobiliser. Il y a aussi Uber qui a décidé ensuite de revêtir tous ses véhicules des couleurs du drapeau français et d'enjoindre les utilisateurs à ne pas trop se déplacer dans la capitale. Twitter aussi a fait beaucoup parler de lui avec le hashtag Porte Ouverte qui permettait aux piétons des environs des attaques de se mettre à l'abri. Et aussi Google qui s'est mobilisé ensuite pendant tout le week-end en permettant des appels gratuits sur Hangout vers la France et qui a mis un petit ruban noir dans les jours qui ont suivi sur sa page d'accueil.
Ouais, une vraie solidarité numérique en fait.
Il y a quand même eu un petit bémol qui a été reproché à Facebook, c'est de ne pas avoir mis en place l'option Safety Check pour les attentats de Beyrouth la veille. Mais le réseau social, là ça y est, s'est rattrapé. Pour les attentats par exemple qui ont lieu au Nigeria, ça y est, il l'a mis en place maintenant partout dans le monde.
Oui. Merci Constance. Lila Megraoua.
Oui, on va partir à Helsinki où j'étais à l'occasion la semaine dernière, à l'occasion du Slush, Slush 2015, qui est un peu le grand rassemblement des entrepreneurs à la fois scandinaves, asiatiques, européens, enfin vraiment les grands du web et qui est un énorme événement rassemblant tous les ans 15 000 personnes à peu près. Donc j'ai repéré une start-up qui est mi-estonienne, londonienne et avec une petite touche finlandaise qui s'appelle Starship, dont vous avez peut-être entendu parler. Ils ont dévoilé en fait tout simplement leur tout premier petit bus de livraison. Alors c'est pas vraiment un bus, c'est une espèce de module de robot sur roulette. En fait c'est un ancien de Skype et de Casa. Pas forcément le premier arrivé, Ati Ainla qui a mis en place donc ce petit robot sur roulette qui va assurer une livraison, ce qu'on appelle la livraison au dernier kilomètre. Donc en gros, ce qu'il propose, c'est de livrer à travers toute la ville. Donc on pourrait imaginer que d'ici 5 ans, voir ces petits robots sur roulettes déambuler dans les rues et vous livrer, pourquoi pas, votre repas commandé à la pizzeria.
Le robot coursier.
Exactement, c'est exactement ça. Alors pour l'instant, c'est limité à 5 km parce que c'est pensé fatalement pour la fameuse livraison au dernier kilomètre. Il est suivi à la fois par le vendeur et le client, et éventuellement en cas d'urgence peut être géré de manière manuelle.
Télécommandé en fait.
Exactement, exactement. D'accord. Surtout, il ne s'ouvre qu'en présence du smartphone. De
l'acheteur.
Client.
D'accord.
Exactement.
Oui, c'est-à-dire que moi, dans la rue, je peux pas ouvrir le truc et prendre, par exemple, la pizza et.
Ça serait trop simple.
Ça serait pas mal.
Donc, Starship. Hein.
Très bien. Nathalie Doré depuis San Francisco.
Oui, alors moi je voulais vous parler de parenting, et plus précisément de parenting digital. Alors je sais pas vous, moi je suis parent, et pourtant c'est pas un terme avec lequel j'étais très au courant, très au fait avant d'arriver aux États-Unis. En fait, le parenting c'est le process qui permet de supporter le développement de votre enfant, que ce soit un développement physique, émotionnel, social. Et en fait, aujourd'hui, je vous propose qu'on s'arrête plutôt sur le développement émotionnel, puisqu'il y a une femme ici à San Francisco, une woman in tech, comme on les appelle, c'est Céolim, que j'ai rencontrée cette semaine et qui a passé plusieurs années dans des grandes entreprises de la tech à des postes élevés, où elle était très très occupée, jusqu'au jour où l'école de son fils l'a appelée pour lui dire que son enfant, en fait, avait des bonnes notes, il n'y avait pas de souci, mais qu'il pensait qu'il n'était pas heureux, il fallait qu'elle s'en occupe. Donc bon, ça a été un peu le coup près pour elle. Et ce jour-là, elle a décidé, alors non seulement, bien sûr, de s'investir plus auprès de son enfant, mais aussi de créer une start-up qui s'appelle Povi. Et cette start-up a pour but donc d'aider les parents démunis comme elle à mieux communiquer avec leurs enfants de manière émotionnelle. Alors en fait, elle a lancé une appli mobile qui sert à ça. Et l'interface est très simple. Selon l'âge de l'enfant, vous sélectionnez des questions que vous posez après en face à face à votre enfant. Donc là, vous mettez le mobile après de côté et ça devient une discussion très simple avec votre enfant. Alors je l'ai testé moi-même avec mon fils de 10 ans. Ça cible plutôt les 2 à 10 ans. Et c'est assez intéressant, et c'est vrai que ça va dans le fond des choses, ça change de est-ce que t'as fait tes devoirs, est-ce que t'as pris ton bain, est-ce que t'as mangé. Et c'est disponible aujourd'hui sur Google Play, sur l'App Store, même pour les Français. C'est en bêta et elle le lancera en avril 2016. Voilà, donc à l'heure où le pape demande d'exclure les iPhones des dîners en famille, je sais pas si vous avez vu cette news, elle est sortie aux US sur VentureBeat cette semaine, mais quand même, ne restons pas sur cette note où la technologie pourrait être vue comme négative. Il y a aussi cette semaine une étude qui est sortie de Family Online Safety Institute, qui est une association à but non lucratif, qui a interrogé des parents, et en fait 78% des parents pensent que la technologie joue un rôle positif sur leur enfant. Donc, voilà, il y a quand même du positif dans tout ça.
Oui, tant qu'ils n'ont pas l'écran 24 heures sur 24 devant les yeux. On est d'accord. Merci Nathalie. Constance,
oui.
Deuxième petite news.
Je vous parlais d'un robot qui mange la pollution en milieu marin.
Alors là, c'est quand même impressionnant.
Incroyable.
Constance. Hein.
Alors, le petit robot s'appelle...
Je suis quand même fasciné par vos sujets.
La variété.
Je me demande comment vous faites pour trouver des trucs comme ça.
C'est vrai, c'est une passion.
Sans regarder votre aquarium chez vous, vous avez dit tiens, il faudrait que je trouve une news là-dessus.
Exactement. Je devrais peut-être acheter moi aussi un petit robot, voilà, pour accompagner mes poissons rouges.
Oui.
Parce que celui-ci, alors il est quand même très très particulier, parce qu'il se nourrit en fait. C'est l'université de Bristol qui l'a designé. Il ressemble à un petit cafardeau avec un estomac artificiel qui du coup transforme les microbes.
Non, excusez-moi, mais le cafardeau, je vois pas du tout à quoi ça ressemble.
Alors, c'est comme
vous avez l'air de dire, attendez, oui, voilà.
Oui, moi je viens de Normandie, près des marais, voilà.
Ouais. Ah voilà, moi un cafardeau, je n'ai aucune idée. Quoi. Je sais pas si c'est gros,
ça,
petit.
Oui, ça, je dirais que c'est un insecte à peu près, oui, voilà, de 3 cm avec des grosses ailes et des pattes velues qui courent sur l'eau, comme s'il rampait au-dessus de l'eau et qu'il courait dessus.
Ça a l'air très sympathique, Constance.
Ah oui, c'est très mignon, c'est pour ça que j'en veux un aussi. Donc ce petit cafardeau robot,
vous voulez un cafardeau à la maison.
Le robot, voilà,
ah
qui
oui,
nettoie.
D'accord.
Il mange les microbes dans son estomac artificiel et ensuite ça les transforme en fait ces bactéries en courant électrique. Et grâce à ce courant électrique, ces petites pattes extensibles qui ont été imprimées grâce à une imprimante 3D peuvent sauter jusqu'à l'étendue un petit peu plus loin pour aller manger plus de bactéries et petit à petit nettoyer l'étendue d'eau sale qu'on avait en face de nous. Alors il faut savoir par contre qu'il faut un milieu sans oxygène pour que la combustion ait bien lieu et qu'on ait du courant électrique. Donc voilà, c'est vraiment approprié au milieu marin. Mais sinon, il y a plein de développements possibles pour nettoyer les piscines, les aquariums autour de vous grâce à ces petits cafardeaux robotisés.
Peut-être que demain, dans notre piscine, enfin je dis dans notre piscine, moi j'ai pas une piscine, mais si on en a une, si vous en avez une, vous aurez des petits machins comme ça.
Plein de petits cafardeaux.
Qui nettoieront. Ouais, ça va être superbe. Très bien. Bon, on va mettre du chlore, hein, pour continuer.
Prière de ne pas les écraser, jusqu'au coup, hein. Oui, j'imagine.
C'est ça. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Lila. Et on va tout de suite enchaîner avec notre rendez-vous vue d'Asie et Jean de Chambure.
Bonjour, François.
Alors, Jean, on ne le sait peut-être pas, mais en Chine, il y a chaque année la fête des célibataires. Et la fête des célibataires, c'était là il y a quelques jours, c'était le 11 novembre. Et vous voulez nous en parler ?
Oui, exactement, François. Le 11 novembre, c'est bien entendu la commémoration pour nous de l'armistice à la Première Guerre mondiale, mais en Chine, c'est la fête des célibataires. Vous savez qu'ils adorent les numéros, les Chinois. Le 11 novembre, donc c'est double 1, ou plutôt quadruple 1, double 11. Et quoi de mieux qu'un quadruple 11 en Chine pour symboliser la fête des célibataires. Alors c'est une histoire assez amusante, ça date en fait des années 90. Ça a été lancé par des étudiants à Nankin pour voilà commencer un peu à fêter leur arrivée dans l'âge jeune adulte et à s'amuser à faire des fêtes entre eux, à rencontrer de nouveaux amis pour pourquoi pas rencontrer l'âme sœur. Et ça s'est développé un peu partout dans les villes chinoises. Vous savez qu'il y a de plus en plus de célibataires en Chine, y compris jusqu'à un âge assez avancé. Alors on voit bien sûr à Shanghai la fameuse place, le fameux marché aux célibataires qui est assez impressionnant, à People Square, on voit les femmes avec des... en fait, ce sont des mères de famille, hein, avec des pancartes, des numéros, y compris le salaire qui est affiché à la personne, et tac, ils proposent de, voilà, j'ai une personne que j'aimerais bien marier. Bon, tout ça est un petit peu, en fait, folklorique, qui est plus ou moins en train de disparaître, parce que les jeunes chinois prennent de plus en plus leur destin en main, et choisissent le moment où ils le souhaitent pour rencontrer l'âme sœur. Ça veut dire qu'en gros, il y a beaucoup de trentenaires qui sont encore célibataires. Alors finalement, quand on est célibataire, si on ne rencontre pas tout de suite l'âme sœur, quoi de mieux, cher François, que de s'offrir, pourquoi pas, un beau cadeau sur Internet. Et c'est ce que font les Chinois, et vous allez voir, les chiffres que je vous donner sont quand même très impressionnants. On connaît bien le Cyber Monday, le Black Friday, qui a lieu d'ailleurs ce mois-ci aux États-Unis, hein, qui se développe de plus en plus pour le boom du e-commerce. Et alors en Chine, c'est vraiment l'opération. Les Chinois adorent faire un peu des choses simultanément, comme prendre des vacances, par exemple, en même temps. Mm-hmm. Et bien, là, c'est vraiment un chiffre qui explose complètement. Il y a deux ans, ils étaient à 5,8 milliards. L'année dernière, ils étaient à 9,3 milliards. Et cette année, on attend plus de 10 milliards de commandes sur tous les sites. Alors, il y a la grande bataille entre Alibaba, qui a été celui qui a vraiment lancé en fait sur le web depuis 2009, en gros, qui a lancé sur le web cette idée qu'on allait faire plaisir en tant que célibataire en s'achetant des cadeaux. Et il y a bien entendu son concurrent, JD, qui également est très présent. Mm-hmm. Et donc, il se déploie une bataille farouche pour savoir lequel des deux aura le plus de fournisseurs. Il y a même Alibaba qui essaye de garder le marché pour lui en demandant à ses fournisseurs de mettre que soit sur Tmall, donc le site B2B, de Alibaba, ou Taobao, qui est un peu la grande plateforme d'échange entre particuliers. C'est aussi la fête des porteurs, François, parce que rendez-vous compte, il y a 760 millions de paquets qui vont être distribués, qui sont distribués depuis avant cette semaine, 760 millions de paquets pour la fête des célibataires, avec entre 15 et 20% de retour, hein, parce qu'il y a beaucoup de retours aussi sur la place du commerce électronique chinois, c'est aussi d'abord des paquets qui viennent et qui repartent. Voilà, hein, complètement impressionnant. Et évidemment, le super cadeau, François, de cette saison, c'est celui que Jack Ma vient de s'offrir. Hein. Il a racheté pour 3,4 milliards. Du coup, Tongdu, c'est l'équivalent du YouTube chinois, pour faire à la fois du e-commerce et du divertissement. C'est sa grande idée, un peu d'ailleurs comme ce que fait WeChat.
Eh bien, dites-moi. Bon, ben voilà, écoutez, alors je ne vous souhaite pas une bonne fête des célibataires, hein, mon cher Jean, parce que vous n'êtes pas concerné, hein, mais
exactement,
vous avez pu la vivre. Parfait. Et en plus, très bien accompagné. Merci beaucoup Jean de Chambure, donc notre vue d'Asie depuis Shanghai. Vous restez avec nous, la suite de l'atelier Silicon Carnet avec Nathalie Doré depuis l'atelier San Francisco. Et puis juste après, ce sera notre Cyber Gadget avec Antoine Cyr. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans un instant, la sélection de gadgets d'Antoine Cyr dans cet atelier numérique sur BFM Business. Mais auparavant, c'est notre Silicon Carnet direction l'atelier US avec Nathalie Doré qui est avec nous. Bonjour Nathalie.
Bonjour François.
Et alors cette semaine, on va parler d'immobilier, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Et en fait, on va surtout parler de location immobilière avec l'entreprise Airbnb qui a encore parlé d'elle ici à San Francisco ces derniers jours.
Mmh. Alors justement, on pense à Airbnb pour l'hôtellerie, mais pourquoi parler d'Airbnb pour la location immobilière ?
Alors finalement, on voit qu'Airbnb a aussi un impact sur le marché de la location. C'est simple, ici à San Francisco, les prix de l'immobilier flambent, ils ne cessent d'augmenter. Alors les revenus élevés des personnes travaillant dans la tech expliquent en partie cette hausse, mais il y a aussi une bonne partie de la population qui estime qu'Airbnb a aussi sa part de responsabilité, puisqu'en fait, de nombreux propriétaires aujourd'hui préfèrent mettre leurs biens en location courte durée sur Airbnb plutôt que le mettre en location dans le marché classique de la location, et du coup, ça contribue à la hausse des prix du fait de la pénurie de logements.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Nathalie ?
Alors en fait, cette semaine, alors les pouvoirs publics s'en sont mêlés. Ils ont essayé de faire passer une proposition, puisqu'en fait, un bon nombre de citoyens avaient fait une pétition pour faire voter cette proposition qui s'appelle Proposition F. Alors c'est une proposition de loi qui avait pour objectif de limiter la location courte durée à un maximum de 75 nuits par an, ce qui permet en fait d'éviter la professionnalisation du Airbnb et du coup de solutionner ce problème de logement. Et en fait, cette proposition n'est pas passée. Alors, il faut dire qu'Airbnb a dépensé plus de 8 millions de dollars en affichage dans les rues de San Francisco pour montrer que, via la taxe d'habitation que payent les clients Airbnb, eh bien, ils reversent, eux, 12 millions de dollars à la ville. Ils ont engagé un ex-politicien pour faire capoter cette nouvelle proposition. Bref, ils ont mis beaucoup de moyens.
Oui, 8 millions de dollars, on peut dire qu'Airbnb a pris les choses au sérieux. On sent que c'est stratégique pour eux.
Oui, alors vous avez tout à fait raison et l'enjeu en fait était très important pour Airbnb que cette proposition de loi ne passe pas parce que médiatiquement ça aurait été un coup dur pour eux qui sont nés à San Francisco, qui ont beaucoup de leur mouvement, de leur service qui part de San Francisco et finalement c'est surtout ça qui les aurait gênés parce qu'en fait d'un point de vue business, San Francisco est loin d'être le premier marché de la société. Ils ont seulement entre guillemets 5000 logements disponibles, loin derrière d'autres villes comme New York City avec 20 000, où le premier client Airbnb, c'est Paris, qui bat tous les records avec 60 000 logements disponibles.
C'est d'ailleurs amusant parce qu'en ce moment, il y a une campagne de publicité assez impressionnante à Paris qui vante les mérites d'Airbnb et qui explique aux gens qui peuvent louer leur appartement. C'est assez drôle. Donc Nathalie, alors qu'Airbnb justement dépense des millions de dollars pour défendre son business, d'autres startups naissent. Et je crois que vous avez des exemples à nous donner d'ailleurs.
Oui, alors un petit dernier qu'on a vu ici, c'est Agent Pair, donc c'est agent comme agent immobilier Pair, P-A-I-R, qui elle n'a pas pour ambition de disrupter le marché comme l'a fait Airbnb, mais plutôt en fait d'apporter de la valeur aux acteurs en place. Alors c'est une entreprise californienne, elle s'est créée l'année dernière, et en fait elle se base sur deux tendances fortes, l'instantanéité et le messaging. Alors comment ça marche pour les particuliers à la recherche d'un bien immobilier? Il suffit d'indiquer dans l'application mobile quel est le quartier qui vous intéresse et quelles sont vos disponibilités, et en fait l'agent immobilier utilise cette app pour vous prendre les bons rendez-vous. Alors, au-delà de ce service de visite à la demande, je dirais, Agent Pair a aussi pas mal d'autres fonctionnalités comme des interfaces de chat. On voit en fait qu'avec ce type d'acteurs, ces startups adaptent donc la tendance du messaging et le besoin d'instantanéité des consommateurs, les fameux millennials du 21e siècle, à un secteur immobilier qui, lui, alors bon, on va dire, même si c'était digitalisé, reste encore assez conservateur dans les usages.
Parfait, merci beaucoup Nathalie, très intéressant tout cela, et on vous retrouve la semaine prochaine. Et tout de suite, c'est la sélection de gadgets d'Antoine Cyr.
Bonjour.
On vous retrouve tout à l'heure d'ailleurs pour le crash test dédié à Marinoni. Alors vous vous dites de qui s'agit-il, vous le saurez à la fin de cet atelier. Mais alors donc, petite sélection de gadgets, pourquoi bonjour déjà? On dit bonjour, je vous rappelle. Hein.
Non, bonjour.
On dit bonjour.
Oui.
Très bien.
Parce que je vais vous proposer un petit tour en data marrant.
En data marrant, d'accord.
Oui.
Allons-y. Bon, je vois que vous prenez un peu l'eau, hein, quand même.
Voilà. Bon, ben, si figurez-vous que le data marrant, ça existe.
Ça existe vraiment.
Et ce n'est pas un...
Est-ce que c'est drôle?
Catamaran. C'est pas drôle, mais c'est drone.
D'accord.
Dis-moi. Le datamaran est drone.
On va pas s'en sortir.
Voilà, le catamaran est drôle.
Est drôle.
Et le datamaran est drone. Voilà. Okay. Comme ça, vous savez tout.
Voilà. Je tiens quand même à remercier chaleureusement les deux auditeurs qui sont restés.
Très bien. À la semaine prochaine.
Qui nous font l'amitié de rester contre vents et marées.
Donc, le datamaran, qui est très drone, a été lancé par une start-up américaine qui s'appelle Autonomous, je le dis sans accent, hein, Marine Systems. Donc, Autonomous Marine, non, Autonomous Marine System.
Ah là là.
Et donc, c'est un, et vous aurez compris qu'il y a quelque chose de marin ou de maritime dans cette affaire, même si vous parlez pas très bien anglais. Et donc, ce datamaran est en fait un drone résistant et plutôt bon marché qui permet de collecter des données en milieu marin en utilisant à la fois l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Donc vous aurez compris que c'est complètement respectueux et favorable à l'environnement. Et donc l'idée, c'est de collecter des éléments sur le changement climatique, le niveau de pollution ou les conditions météorologiques. Donc c'est évidemment un drone, mais c'est un drone bateau qui est dirigé par deux flotteurs et une aile et qui peut se piloter de manière autonome. Il arrive à se comporter très bien aussi en cas de tempête. Et il n'est pas sensible au courant, donc il peut rester dans un rayon stationnaire de 50 mètres pour récupérer des données très précises sur certaines zones, comme la salinité par exemple. Donc vous voyez que c'est un engin, en fait il utilise son énergie à rester sur place.
Ah oui, c'est génial quand même.
Voilà, c'est ça la caractéristique du datamaran.
Le datamaran.
Puisqu'il collecte des informations qui sont toujours au même endroit. Voilà. Et puis alors une autre petite info, une espèce un clavier virtuel qui vous colle à la peau. En fait, vous pouvez utiliser à partir de 2016, grâce à NEC, NEC, vous pourrez utiliser votre avant-bras en tant que clavier. Et donc, c'est un système qui s'appelle Arm Keypad, là vous avez bien compris, qui présente l'avantage de pouvoir être utilisé dans des environnements bruyants. Donc, voilà, l'idée, c'est que votre clavier, il est affiché par lunettes. Et donc, il suffit à celui qui les porte de cliquer sur les touches avec son doigt et les lunettes détectent le mouvement et prennent en compte l'affichage de la lettre sur votre smartwatch par exemple.
Voilà. Ça va coûter un bras cette histoire.
Ça coûte un bras. Donc vous avez bien compris que votre bras grâce aux lunettes remplace l'écran de la smartwatch.
Ah oui, oui.
Voilà.
C'est beau hein, quand même, hein,
bah oui.
Antoine. Et ça arrive l'année prochaine.
Ça arrive l'année prochaine.
Mais il faut des lunettes qui vont avec.
Bah, il faut les lunettes qui vous permettent de projeter le clavier sur votre bras.
Bon, vous avez déjà une paire de lunettes. Elle est complètement tordue là d'ailleurs, votre paire de lunettes avec le casque
oui,
que vous avez sur les oreilles.
Et donc je pense que je vais faire beaucoup de fautes d'orthographe.
Oui.
Si à partir de ces lunettes-là, je projette quelque chose sur mon doigt,
ça va pas être
je pense que ça va pas être triste.
Bon, redessez vos lunettes, mon cher Antoine. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier.
Je n'y manquerai pas, monsieur.
Alors, ça sera notre focus start-up et puis notre enquête de l'atelier. Comment les industries créatives et culturelles s'emparent-elles de la data ? On en parle avec Lila Megrawa et notre invité, le spécialiste marketing chez Warner sera avec nous. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans un instant, dans cet atelier numérique, ça sera notre enquête de l'atelier. On va parler d'industrie créative, de culture et de data avec notre invité qui est un spécialiste dans le sujet. Mais auparavant, notre focus start-up, on va découvrir Fred B. avec vous, Aurore Géraud.
Je suis avec Areba Rehman qui est fondatrice de Fred B. Areba, bonjour.
Bonjour.
Alors Fred B, il y a fret dedans, donc on pense tout de suite au transport de marchandises. Quelle est l'origine de votre start-up ?
L'idée est née d'un constat personnel. Je devais moi aussi déménager, un peu comme la plupart des personnes. On a tous connu un déménagement lors de notre parcours. Et on a tous connu donc la recherche fastidieuse d'entreprises de déménagement alors que on sait très bien que d'un côté, il y a 25% des camions qui roulent à vide et plus de 50% à moitié remplis. Et nous devons payer un bras pour faire un transport d'un article volumineux qu'on achète sur le Bon Coin ou pour faire un appel à une entreprise de déménagement tout simplement. Donc ces deux facteurs que j'ai voulu moi mettre en ligne sur une seule marketplace. Donc l'idée c'est de se dire on a un besoin, une demande de transport de déménagement et de l'autre côté, il y a les entreprises de déménagement partenaires Fred B, on les met en relation en favorisant les places disponibles dans les camions, ce qui permet d'avoir un rabais sur le prix qui va jusqu'à moins 75% que les prix pratiqués sur le marché.
Alors demain, je suis un particulier, je souhaite déménager. Comment fonctionne la plateforme en elle-même ?
Alors, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur fredbay.com, vous déposez votre demande de déménagement en 60 secondes, top chrono, et votre demande est donc déposée, diffusée auprès de nos 8000 entreprises partenaires de déménagement. Vous n'avez plus rien à faire. Vous recevez des devis, ça peut être instantané ou ça peut être, on va dire, 2 heures, 5 à 6 devis, défiant toute concurrence. Vous avez juste à choisir le prix ou le profil de l'entreprise disponible sur la plateforme et le tour est joué.
Vous avez vraiment un aspect Smart City derrière, puisque vous faites de l'optimisation de transport. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur?
Alors oui et non, j'ai envie de dire que lorsque j'ai débuté, pas forcément, mais avec le temps évidemment, surtout lorsqu'on a des retours de nos partenaires entreprises de transport et déménagement qui commencent petit à petit à être sensibilisés, à eux-mêmes réfléchir dans ce sens-là, et en même temps maintenant on est tous vraiment concernés par on a 3 semaines de la COP21, on est énormément sensibilisés avec le réchauffement climatique, etc. Donc oui, plus ça va, plus ça me tient à cœur. Alors, en plus, surtout lorsqu'on sait que c'est un avantage vraiment pour le particulier en termes de prix.
Vous avez un développement actuellement qui est plutôt européen. Est-ce que la suite, ça serait un développement international?
Alors, pour l'instant, c'est vrai que très vite, l'avantage sur Internet, c'est qu'on peut très vite se lancer sur l'international. C'est ce qu'on a fait chez Fredbay, avec cet esprit très ouvert, très international. On a très vite lancé des pays voisins européens. On continue notre développement et à améliorer notre positionnement sur ces pays-là. Bien évidemment, on va pas se limiter à l'Europe.
Et niveau partenariat?
Alors niveau partenariat, c'est pareil, on a aussi toujours travaillé avec de bons partenaires, on continue à travailler les partenariats. Donc l'idée, c'est de se dire toutes les sites complémentaires à l'activité de Fredbay sont évidemment nos partenaires et c'est ce qu'on envisage c'est ainsi qu'on envisage de continuer pour notre développement.
Très bien, merci beaucoup Areba Rehman, donc de Fredbay.
Merci beaucoup Aurore, et place donc maintenant sur BFM Business dans cet atelier à notre enquête avec Lila Megraoua. Comment les industries créatives et culturelles s'emparent-elles en fait de la data?
Mais oui, est-ce bien tout à fait compatible? Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir en studio Emmanuel Durand.
Bonsoir.
Bonjour.
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 Alors, Emmanuel Durand, vous êtes vice-président marketing chez Warner Bros. Et vous avez également écrit « La menace fantôme, les industries culturelles face au numérique » paru aux éditions Presse de Sciences Po.
Attention, parce que « La menace fantôme », c'est pas chez Warner, hein, normalement. Non. Mais on apprécie la petite facétie. C'est sympa.
C'est confraternel.
Voilà, c'est confraternel. Puis c'est du cinéma, donc on n'est pas loin.
Alors dites-nous un peu de manière assez générale comment de manière générale les industries culturelles font face au numérique et est-ce que data et culture c'est tout à fait compatible?
Alors, est-ce que la culture est soluble dans la data, vous voulez dire? Alors il y a plusieurs questions là-dedans. La première, c'est comment les industries culturelles ont vraiment réussi ou pas à prendre le train du numérique. Et les industries culturelles, c'est plusieurs industries très différentes. Il y a la musique qui a malheureusement essuyé les plâtres pour tout le monde et pour laquelle on peut pas dire que ce soit super bien passé. J'y étais à l'époque et c'est d'ailleurs ce qui a été pour moi le point de départ pour réfléchir à l'écriture de cet essai. Parce que j'ai vu se reproduire les mêmes types d'erreurs dans d'autres secteurs. On s'aperçoit que finalement, cette disruption portée par le numérique, elle s'exerce un peu toujours de la même manière. Mmh. D'abord, vous avez des nouveaux entrants qui arrivent en aval, au niveau des consommateurs, et qui, en nouant un lien très intime avec eux, prennent des positions qui retournent en fait les business models existants. En gros, les business models existants, c'est avec des acteurs à l'amont qui sont très puissants, les producteurs, hein, les studios, etc. Et ces acteurs aval viennent retourner le schéma de la valeur en disant « bah non, c'est pas votre catalogue qui a de la valeur, c'est la relation consommateur ». Et ça, c'est des changements de paradigme qui sont parfois assez compliqués à comprendre et auxquels il faut s'adapter de manière assez rapide en plus.
Est-ce que vous diriez que c'est une refonte de votre secteur? Le secteur ne va pas disparaître, mais il est tout simplement en train de muter. Est-ce que Warner est en train d'opérer sa mutation? Est-ce que demain, vous resterez producteur et distributeur de contenu cinématographique, d'œuvres cinématographiques?
Alors là encore, si on regarde le modèle de la musique, les sociétés qui ont survécu et qui sont sorties sont celles qui ont eu une stratégie de portefeuille et qui ont réussi à diversifier leurs sources de revenus. Lorsque la musique enregistrée a commencé à vraiment souffrir, le CD d'abord, le MP3 ensuite, celles qui avaient réussi à prendre des positions, par exemple, chez les tourneurs, les gens qui organisent les concerts des artistes, etc., ou alors qui se sont développées des activités de cession de droits en synchronisation pour de la publicité, des films, etc., celles-là s'en sortent mieux que les autres. Mmh. Et on voit bien, en fait, que, effectivement, la caractéristique principale de la distribution, c'est une perte de valeur initiale. On le sent aussi intuitivement sur la vidéo. Les gens vont peut-être acheter de moins en moins de DVD au profit de la VOD, peut-être, dans un premier temps, qui est une location. Donc, il faut compenser ça par du volume. Et éventuellement, à la VOD par abonnement, le fameux Netflix.
La SVOD, oui.
Voilà,
bien sûr.
Tout à fait. Mmh. Qui peut en représenter encore une perte de valeur supplémentaire. Donc, effectivement, Warner, pour s'adapter, va devoir diversifier ses sources de revenus, pardon. Mais Warner, ce n'est pas que des films. C'est aussi des séries télé. Ce sont des jeux vidéo. On est, le quatrième éditeur français cette année. Donc, c'est déjà un processus qui est à l'œuvre au sein de notre studio.
Et puis on le voit, c'est rigolo parce qu'on en parlait juste avant de faire cette interview. On prend par exemple la licence Harry Potter qui va bien au-delà du cinéma. Hein. Alors il y a tous les objets qui sont liés à tout ça, enfin toute l'histoire. Et puis même des expositions qui sont, j'imagine, des sources de revenus importantes pour la Warner.
C'est vrai que dans un monde numérique, il s'agit peut-être pas tant de faire des œuvres, mais plutôt de faire des marques. Et de pouvoir les exploiter.
Qui vont bien au-delà du cinéma, en fait.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est une demande des spectateurs et des consommateurs de pouvoir avoir une expérience plus profonde ou plus large quand ils sont un lien affectif avec un contenu, de pouvoir vivre ça de manière plus... enfin, en tout cas différente.
Mais la locomotive, malgré tout, c'est l'œuvre. On est d'accord, toujours.
Ah, de toute façon.
Le chanteur, pour qu'il fasse des concerts, il faut qu'il fasse des disques.
Exactement.
Donc là, il faut malgré tout, le point de départ, une œuvre cinématographique. Ou quelque chose.
On peut dire que c'est notre mission finalement. Notre mission, c'est de raconter des histoires. Et après, le support, c'est pas secondaire, mais en tout cas, ça vient après.
Est-ce que les datas pourraient vous aider à concevoir cette expérience après le film, cette expérience après le film, après la salle, à savoir accompagner, enfin accroître cette espèce d'expérience sociale. Voilà, j'ai vu un film, je reste dans l'univers du film. Comment j'accompagne mon spectateur une fois le film. Pour l'instant, ça n'existe pas.
C'est amusant parce que quand on regarde les secteurs qui font ça à peu près, enfin un peu mieux que nous, il y a des secteurs pas nécessairement où on n'irait pas intuitivement les voir, mais par exemple les musées, eux sont capables de monétiser la fin de l'exposition avec boutique qui se place toujours en fin de parcours, alors que lorsqu'on va voir un film en salle, généralement une fois le film fini,
on a mangé les pop-corns.
l'exploitant il n'a qu'une envie, c'est que on sorte le plus vite possible pour qu'il puisse faire entrer les autres.
Ça peut changer ça à votre avis?
Eh bien, ça nécessite des investissements d'infrastructures qui sont de l'ordre, enfin qui sont lourds, je pense, et qui nécessitent parfois des modifications architecturales, etc. Mais je crois que il n'y a pas que la partie dans la vie réelle. Il y a aussi tout ce qu'on pourrait faire, effectivement. Et vous parlez de data, d'un accompagnement numérique, en fait. Mmh. Je pense que lorsqu'on vient de voir un film, c'est le pic de l'engagement. Un film en salle, ça reste une activité sociale, ça reste une activité signifiante. On a envie de parler de ça, on a envie de quelque part se définir socialement par rapport à ça, et c'est le moment où on va probablement être le plus vocal sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, etc. Donc peut-être que ça pourrait s'organiser un peu mieux, peut-être.
On parle de data et de culture et il y a cet exemple qui me vient à l'esprit. C'est celui d'House of Cards. Je me souviens que quand Netflix avait commandé cette série, on avait lu, alors je sais pas si c'était vrai, que en fait ce scénario et le réalisateur avaient pioché en fait énormément d'idées sur le web et que justement il y avait eu de la big data pour essayer de faire un scénario qui soit le plus, on va dire, le plus appétant possible en reprenant un petit peu les désirs des internautes.
Alors
là on est vraiment dans cet exemple concret de data au service de la culture
et de la création.
Et de la création.
Alors, est-ce que c'est au service de la création? On ne sait pas. Donc, il y a des gens qui ont des positions très passionnelles sur le sujet, parce que la création, il y a un fantasme du génie de
oui, bien
de,
sûr, de
créatif,
du créatif,
exactement, qui ne doit pas être contraint par de l'algorithmie et des mathématiques. Alors. Moi, je pense
vous
que
vous confirmez pour House of Cards, c'est vrai ce qui s'est passé ou pas?
Alors, c'est Netflix a annoncé effectivement que data et création intuitive travaillaient avec un ratio de 70 et 30, mais ils n'ont jamais précisé dans quel sens. Déjà. Ensuite, ils ont dit que effectivement, ils utilisaient toutes les données d'usage de leur plateforme pour savoir en fait ce qu'aimaient les gens. Qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient accrochés à une série. Aujourd'hui, ils peuvent vous prédire à partir de quel épisode vous allez être accroché à une série ou pas. Et ça n'a pas empêché David Fincher, quand il a fait House of Cards, de faire la première scène de la série, c'est notre futur président qui tue un chien quasiment à main nue. C'est un acte de compassion parce qu'il il a eu un accident, mais néanmoins la data leur montrait que la moitié des gens quittaient la série à ce moment-là et ils ont gardé ça malgré tout. Donc vous voyez que quelque part malgré tout la data, si on revient peut-être à quelque chose de plus philosophique, la data c'est quelque chose qui va vous permettre de faire des améliorations à l'intérieur d'un système. C'est pas quelque chose qui va vous permettre de questionner ce système.
Et en tout cas, ça va pas le dicter ce système. Ça va simplement,
exactement,
on va dire le peaufiner.
Et une bonne création, c'est pour moi d'abord avant tout une rupture. C'est quelque chose qui va vous surprendre. L'élément de surprise est très important dans une création. Il faut se rappeler que House of Cards, c'est une reprise d'une série anglaise. Et je ne suis pas sûr que la data qu'ils ont utilisée pour Monte Carlo a eu le même impact, puisque la série n'a pas vraiment été un succès.
Mais est-ce qu'on peut imaginer demain un réalisateur qui n'a pas trop envie de se fouler, ou parce qu'il a, on va dire, des ordres dictés par sa prod, justement qu'il fasse qu'il crée un scénario simplement par de la data et des envies, ou ce dont on expliquait tout à l'heure, de la part des internautes?
Mais tout à fait. La data,
ça existe déjà peut-être. Hein,
peut-être que ça existe déjà. Et pour moi, la data, c'est un outil, en fait. On peut l'utiliser bien ou mal, de la même manière qu'on peut se tromper avec une perceuse ou bien l'utiliser. Et je pense que c'est quelque chose qui sera comme le ménage, c'est-à-dire que ça se remarquera que quand ça sera mal fait.
Voilà, c'est ça. Parce que derrière, il faut le talent malgré tout du réalisateur.
Je suis persuadé qu'il y a des
gens. Qui a le dernier mot à tout ça. Hein.
Rappelez-vous, dans la musique, il y a 15 ou 20 ans de ça, quand sont arrivés les logiciels auto-tunes qui permettaient de chanter juste tout le temps, etc. On a dit, là, c'est la mort des interprètes. En fait, n'importe qui pourrait enregistrer un album chez soi. Bon, 20 ans plus tard, on s'aperçoit que n'importe qui ne peut pas enregistrer un album chez soi et que le talent continue à primer.
Est-ce qu'il n'y a pas tout de même certains métiers qui vont être amenés à évoluer avec la data? Je pense notamment au métier de programmateur. Est-ce que demain, il ne devra pas être en quelque sorte quand même un peu data analyst, voire data scientist?
Alors, bien sûr, il y a... En fait, on vient de parler de création, mais il n'y a pas que la création. Dans la culture, il y a la distribution. Et lorsqu'on parle de notamment de diversité, par exemple, dans la culture, on peut mettre dos à dos la diversité produite d'un côté, c'est-à-dire donc la data dans la création, est-ce que c'est un outil de diversité, et la diversité consommée de l'autre. Et on s'aperçoit que Internet, de ce point de vue-là, c'est un énorme concentrateur de consommation. C'est-à-dire que quand vous prenez une plateforme comme Spotify, malgré le fait que vous avez 2 millions de titres présents sur la plateforme, l'intégralité ou la quasi-intégralité des écoutes vont se concentrer sur les 10 ou 100 premiers artistes. Et donc,
je crois que d'ailleurs c'est plus de 2 millions de titres.
Donc il y a un vrai enjeu. Vous parlez de programmation, donc il y a un vrai enjeu de réussir à exposer correctement une vraie diversité culturelle. Alors pour des raisons diverses, on peut le faire pour le bien de la culture, mais aussi on peut aussi le faire pour le bien du public lui-même, parce qu'à partir d'un moment donné, si vous ne pouvez pas proposer de la découverte aux gens, ça va tourner en rond et on va passer à autre chose. Donc oui, la data de ce point de vue-là, correctement utilisée, doit être un outil qui doit permettre d'exposer un peu plus largement en fait les contenus, les différentes œuvres.
Tout ça est passionnant.
Pour approfondir le sujet, je vous invite à assister à la soirée spéciale Data pour la culture, culture de la data, organisée par l'atelier BNP Paribas et le Forum d'Avignon, le 24 novembre prochain à 18h30. Emmanuel Durand, vous interviendrez également.
Avec
Merci
plaisir.
Beaucoup.
Voilà,
Merci
sujet
beaucoup.
Passionnant. Merci beaucoup, Emmanuel. Et vous restez avec nous, la suite de l'atelier sur BFM Business. Ça sera notre web stratégie dans une minute. On va parler de la stratégie digitale d'une marque qui va cartonner là dans les semaines qui viennent, c'est la Grande Récré. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans un instant, notre passion selon Sonnette, on va parler de la face cachée de la gratuité avec Lila Megrawa et notre invité. Mais auparavant, notre web stratégie. C'est vrai que Noël approche à grands pas. Et à cette occasion, on va s'intéresser à la stratégie digitale de la Grande Récré. Et c'est avec vous, Lila Megrawa.
Oui, François. Alors, cette semaine, on va s'intéresser à la stratégie digitale de la Grande Récré. Pour tout vous dire, dans un endroit assez particulier, on est à la Grande Récré Beaugrenelle. Je regrette qu'on ne soit pas en TV pour pouvoir vous montrer. On va faire un point avec Franck Mattet. Bonjour.
Bonjour.
Alors Franck Mattet, vous êtes directeur marketing de la Grande Récré. Alors dites-nous, racontez-nous un peu quand a commencé votre mutation numérique. Quand et comment vous avez opéré cette mutation-là ?
La mutation numérique a commencé dans les années 2000 lorsque on a fait notre site internet qui était une vitrine. Et puis en 2013, on a décidé de passer le cap et de faire que notre site internet soit un site marchand. Et donc finalement de faire partager à nos clients cette possibilité d'être en relation avec la Grande Récré, à la fois en magasin, qui reste le cœur de notre activité, mais aussi via le digital, parce que le digital aujourd'hui fait partie des habitudes des Français, des Françaises, et donc c'est important pour nous de pouvoir conserver ce lien avec nos clients et de leur permettre finalement de s'approprier la Grande Récré comme ils en ont envie.
La Grande Récré, on peut retrouver les magasins, mais on peut également retrouver en ligne via des sites, peut-être des applications mobiles.
Oui, aujourd'hui, la Grande Récré devient omnicanal, c'est-à-dire que on a nos magasins, donc là, c'est ouvert et accessible toute l'année, et puis on a aussi notre site internet, qui permet finalement de pouvoir acheter, qui permet d'avoir des services, de préparer ses achats, d'avoir des idées, de partager ensuite. Puis la Grande Récré, c'est aussi les réseaux sociaux, avec Facebook, Instagram notamment, qui permettent là de faire parler nos clients autour de leurs aventures avec leurs enfants grâce aux jouets. Et puis c'est aussi la digitalisation en magasin, avec cette capacité qu'on propose à nos clients de commander des produits quand ils ne sont pas en magasin, parce que parfois les envies de nos clients sont supérieure à l'offre disponible en magasin. On a des demandes très spécifiques sur certains produits qui sont avec un niveau de prix élevé ou certains produits très pointus pour des collectionneurs. Donc grâce à la digitalisation, on apporte aujourd'hui des réponses complètes à nos clients.
Concrètement, si je cherche un jouet en particulier, est-ce que je vais pouvoir aller sur le site de la Grande Récré, regarder un peu, consulter un peu où l'objet, où le jouet est en stock, le commander, venir le retirer en magasin ou me le faire livrer?
Absolument. Aujourd'hui, on a cette possibilité, via Internet, de pouvoir préparer ses achats, de pouvoir réserver les produits qu'on voudrait. Et c'est vrai que réserver les produits au moment de Noël, c'est quelque chose de très, très important. Mais on peut aussi les acheter, se les faire livrer. Alors, on va se les faire livrer chez soi. On va se les faire livrer dans un colis relais. Ou bien, on peut venir aussi directement les récupérer en magasin. Donc, on a vraiment une solution globale qui permet à nos clients de faire comme ils ont envie. Et on peut le faire chez soi, derrière son ordinateur, mais on peut le faire aussi ensuite en situation de mobilité, sur une tablette, sur un smartphone. Donc c'est vraiment aujourd'hui une application à 360 degrés qui permet à nos clients de s'organiser comme ils en ont envie. Et c'est vrai que dans une activité comme la nôtre, où on a 50% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur les deux derniers mois de l'année, proposer des services à distance pour certains clients, c'est une vraie facilité qui leur est offerte.
Aujourd'hui, l'e-commerce, ça représente quelle part de votre chiffre d'affaires ?
Aujourd'hui, l'e-commerce, c'est quelque chose qui est en plein développement. Donc, on a une croissance qui est très forte, mais un poids d'activité qui est inférieur à 5% par rapport au poids global de notre enseigne. Mais c'est bien normal puisque la Grande Écrée en France, c'est 230 magasins et c'est historiquement le cœur de notre activité. Donc, le digital est un service complémentaire qu'on va proposer à nos clients. Donc c'est un service en devenir compte tenu de l'appréciation grandissante des clients. Mais bien évidemment, le cœur de notre métier restera toujours le magasin. Et donc l'esprit de notre activité omnicanal va dans ce sens. C'est finalement enrichir la possibilité de service qui est proposé toute l'année dans le magasin grâce au digital, avec de l'information, avec de l'accompagnement, avec du conseil, avec bien sûr aussi de l'achat, ça c'est important, et faire en sorte que finalement nos clients s'y retrouvent comme ils en ont envie.
Concernant les équipes de vente, j'imagine que le digital a dû avoir un impact.
C'est vrai que l'activité digitale a impliqué des évolutions dans l'activité du quotidien des équipes en magasin. Donc, ça passait d'abord par une information, c'est-à-dire leur dire ce que nous voulions faire. Quelle est notre stratégie, quel est le sens de ce que l'on veut proposer à nos clients. Et puis ensuite, c'est de la formation. C'est de la formation parce que il faut faire évoluer les process. Quand on fait de la e-réservation, il y a tout un protocole de confirmation de la disponibilité du produit à nos clients. Ensuite, il faut aller chercher les produits. Ensuite, il faut les préparer, les mettre de côté, et puis ensuite il faut les proposer à nos clients lorsqu'ils viennent. Et c'est la même chose avec le click and collect. Et puis quand on fait la digitalisation, ben là aussi c'est un outil supplémentaire qu'on met à disposition de nos équipes. C'est une formation parce que il faut aller dans ce site qui présente plus de 60 000 références. Donc il y a toute l'ergonomie à maîtriser. Et puis il y a aussi la relation avec le client qu'il faut faire évoluer. Donc c'est comment on va proposer ça, comment on va valoriser ce service auprès de nos clients pour faire en sorte que finalement tout ça se passe d'une façon très fluide, transparente pour les clients et de façon très efficace.
Donc là, une digitalisation est une réalité pour votre marque depuis quelques années. À partir de ces données, est-ce que vous avez développé des services en particulier, peut-être des programmes de fidélisation ? Par exemple.
C'est vrai que ce qui va faire le lien avec cette activité digitale et cette activité magasin, ça va être la politique CRM. C'est-à-dire que, en fait, on a constitué une base de données clients qui est aujourd'hui riche de 2 millions de clients. Donc, on a fait ça en 2 ans à peine. Donc, ça démontre aussi l'envie de nos clients d'adhérer à ce système-là. Et donc ça nous permet ensuite de travailler à la fois la stimulation de notre clientèle, mais ça nous permet aussi de renforcer la connaissance de nos clients. Connaissance en termes de rythme d'achat, en termes de type de produits achetés. Et ça nourrit notre expérience et ça nous permet finalement de nous adapter encore plus rapidement aux évolutions des comportements de consommation et en même temps aux évolutions des gammes de produits. Le marché du jouet, c'est un marché qui se renouvelle entre 30 et 40% chaque année. Donc il y a beaucoup de nouveautés. Et puis chaque année, les enfants ont un an de plus. Et un an de plus pour nous adultes, c'est pas grand-chose, mais pour un enfant, c'est un autre monde. Et donc il s'agit chaque année, de trouver la tendance qui va faire que ces nouveaux mondes puissent s'y retrouver.
Alors, quand on est un distributeur, une marque autour de l'univers du jouet, comment on s'adresse à ses clients sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on met en place? Parce que j'imagine que les enfants restent la cible première, ils sont pas forcément sur Facebook ou Twitter.
C'est vrai que une enseigne de jouets comme la Grande Écrée, elle a une double clientèle en fait. Il va y avoir les consommateurs, c'est-à-dire les enfants qui sont utilisateurs des produits, des jouets. Mais en même temps, il y a les parents qui, eux, sont les acheteurs, puisque les enfants ne se déplacent pas tout seuls et ils ne vont pas passer en caisse tout seuls. Donc en fait, quand on veut s'adresser aux parents, on va leur parler d'expérience. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est que dans nos magasins, nous avons les parents conseils. Donc ce sont les papas, les mamans, les grands-mères, les grands-frères, les grands-pères, tout ça. Et donc ce lien qu'on construit en magasin, on veut le prolonger via nos réseaux sociaux. Et donc on va faire partager de l'expérience autour des jouets, autour des sensations qu'on a dans le jouet. Et puis bien évidemment, autour des événements qu'on peut créer dans nos magasins. Cette approche, c'est une approche qui consiste à créer et à renforcer du lien.
Franck Mattet, merci. Je rappelle, vous êtes directeur marketing de La Grande Récré. Merci.
Merci Lila. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier avec passion selon Sanette. World Tour, French Tech Tour. À tout de suite.